Voilà, chers amis, en ce début d'après-midi, bien entamé, nous poursuivons notre récollection et nous allons creuser dans le credo la partie ayant Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Alors, vous pourrez découvrir vous-même, on pourra vous envoyer éventuellement si c'était souhaitable, mais il est préférable que vous fassiez l'expérience par vous-même d'aller voir et dans le symbole des apôtres et puis dans le credo de Nicée-Constantinople la manière dont ce thème est traité. Donc toujours beaucoup plus manière condensée dans le symbole des apôtres, tel que je viens de le dire, et puis d'une manière plus développée dans le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Donc, vous voyez qu'il y a un développement quand même beaucoup plus profond et grand dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, pour resituer un petit peu, toujours comme nous aimons le faire avec Marie-Christine, tout ce que nous faisons, et là ici particulièrement, pendant cet enseignement, ce qui touche à Jésus, le Fils unique, notre Seigneur, resituons cela aussi par rapport au but de notre vie chrétienne, de toute vie chrétienne, être, vivre en communion avec Jésus-Christ. Car lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'esprit, chacun de nous, et nous faire participer à cette vie divine, à cette vie de la Sainte Trinité, à cette vie qui est vécue en Dieu lui-même et que Dieu a soif, a le désir de partager avec chacun de nous.
Alors juste, bien sûr, ce sera redit après et amplifié, mais bien dire que être ou vivre en communion avec Jésus-Christ, c'est vivre ou être comme lui a été, d'être, de devenir à son image, de devenir une image du Christ, hein, pour que les personnes, en nous voyant, puissent être conduites au Christ. Hein. C'est pas seulement le fait d'avoir une vie très pieuse. Hein. Il y a des gens très pieux qui sont pas du tout chrétiens, même des gens qui sont dans les églises et qui ne sont pas chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui pardonne, qui aime son ennemi, hein, et qui est prêt à donner sa vie. Voilà. Bon, on va expliciter tout ça, mais déjà, c'est important de le dire au départ, je crois.
Alors, on va faire les choses dans l'ordre, hein, bien simplement. Et donc, pour commencer, on va creuser simplement le mot et tout ce dont il est le signe de Jésus. Alors, tout le monde le sait plus ou moins, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Le prénom, le nom de Jésus est un mot d'origine hébraïque, araméenne, qui veut dire Dieu sauve. Voilà. Ce n'est pas rien. Et donc, du coup, le nom de Jésus contient à la fois son identité et sa mission, qui ne sont qu'une seule et même chose, d'une certaine manière. Alors ça, on peut le découvrir, évidemment, à travers la parole de Dieu. Et notamment, chez saint Paul, lorsqu'il écrit aux Galates, et je le cite au chapitre 4, Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Fin de citation. Donc, vous voyez, nous voyons déjà ici dans ce que dit saint Paul, le fait de la mission de Jésus en lien avec son Père, puisque c'est Dieu qui envoie Jésus. Hein, dans la Trinité sainte, il y a ce constat, après avoir tissé l'alliance avec les hommes déjà depuis plusieurs millénaires, plus de 2 à 4 millénaires, peu importe, mais avec ce peuple élu, Dieu qui se rend compte que son alliance est sans arrêt brisée, voilà, bafouée par les hommes, hein, par chacun de nous. Et donc du coup, Dieu ne se résout pas à à cette alliance brisée sans arrêt. Et donc Dieu veut la renouveler d'une manière absolument nouvelle. Et c'est en Jésus, son Fils, qui va manifester cette alliance, ce salut, d'une manière absolument définitive, totale, une victoire complète sur l'ennemi qui se déploie, bien sûr, dans le temps. Nous allons le voir tout au long de cet enseignement. Donc, Jésus, il nous est dit par saint Paul, donc, il n'est pas seulement envoyé par le Père, mais il est né d'une femme, et nous y reviendrons. Il est né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. Et ça nous montre bien que Jésus se fait vraiment l'un de nous. Nous sommes sujets de la loi, et Jésus, Dieu qui se fait homme, est lui-même sujet de la même loi de Dieu son Père. En ceci, il n'est pas différent de nous. Il y a vraiment ce mystère de l'amour qui vient se faire l'un de nous. Il ne peut pas sauver les hommes sans se faire homme lui-même et manifester la possibilité pour les hommes d'être unis à Dieu en communion complète et absolue avec le Père.
Alors, en fait, quand il est dit « né sujet de la loi », il faut bien comprendre que Jésus s'est fait sujet de la loi afin de racheter les sujets de la loi. C'est-à-dire que c'était tous ces Juifs, mais nous sommes pareils, hein, il ne faut pas faire une différence entre les Juifs et nous. C'est vraiment important que nous voyons aussi à quel point nous sommes centrés sur certaines lois et nous pensons que ce qui est bien, c'est d'être dans ces lois-là. Et si on n'accomplit pas ces lois-là, eh bien, on n'est pas quelqu'un de bien. C'est une sorte de rigorisme, hein, qui n'est pas de la vie. Hein, parce que je pense à l'évangile du bon samaritain, hein, on voit que le docteur de la loi, il passe outre le malheureux, pareil le lévite, hein, et que c'est un samaritain qui vient sauver. Donc c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est qu'il veut nous racheter de cette tentation que nous avons de toujours vouloir être parfait, selon des idées que nous nous faisons, mais avec un cœur dur. Or, ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons un cœur qui se laisse attendrir par l'autre.
Voilà. Et ce que nous voulons et qui conduit à la dureté du cœur, c'est lié à cette compréhension fausse que le salut serait mon salut et consiste à être parfait, à faire tout ce que la loi demande. Alors, la loi, si c'est Dieu qui la donne, elle n'est pas mauvaise, mais ce qui est à comprendre, et même si nous ne rentrerons pas dans un détail très grand tout au long de cet enseignement, mais c'est bien en introduction de le resituer, c'est de vivre la loi dans son esprit. Il ne s'agit pas de vivre la loi dans sa littéralité, dans sa dimension immédiate, et de dire « c'est bon, j'ai coché chaque élément de la loi, tout va bien », et puis dans mon cœur, continuer à haïr telle ou telle personne de mon entourage et à juger ceux qui ne font pas comme moi. Donc ici, Jésus vient sauver ceux qui sont sujets de la loi, parce que être sujet de la loi n'est pas mauvais, mais est insuffisant. La loi nous permet de grandir dans la justification, dans le fait d'être plus juste, mais ce qu'il faut plus encore, c'est vivre l'esprit de la loi et donc de vivre de l'amour. Je peux faire toute la loi, comme dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, l'hymne à la charité, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, comme une cymbale qui résonne.
Et l'amour implique de renoncer à sa propre vie, de renoncer à soi-même. C'est là notre difficulté. C'est que nous voulons bien avoir des paroles gentilles tant que ça ne nous coûte pas trop, mais dès qu'il s'agit de donner notre vie pour l'autre, de renoncer à une chose qui nous est chère pour aider un autre, ou pour passer du temps avec lui, ou pour l'aider d'une manière ou d'une autre, eh bien à ce moment-là, nous calons, nous refusons. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est à nous donner, se donner complètement.
Comme le Seigneur se donne à nous. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, il nous est dit ceci, je le cite, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. » Vous voyez, le mystère de Dieu qui sauve est un mystère qui est lié à cette visitation. Vous voyez, la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth manifeste cette visitation de Dieu présent en Marie à toute l'humanité à travers la figure de Jean-Baptiste. C'est chacun de nous, à travers Jean-Baptiste et sa mère, bien sûr, Élisabeth, qui sont visités par Dieu à travers la Vierge Marie. Et Dieu vient visiter son peuple, pourquoi ? Pour nous délivrer. Il voit, il connaît notre misère, et il a cette initiative, cet élan, ce mouvement intérieur de s'approcher de chacun et chacune d'entre nous, pour nous délivrer.
Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que j'ai vraiment le sentiment que j'ai besoin d'être sauvé ? Hein? Est-ce que sans le Seigneur, je me noie? C'est parce que être sauvé, quand quelqu'un a besoin d'être sauvé, eh bien, c'est quelque chose, c'est qu'il faut le sortir de la mort. Donc, est-ce que moi, personnellement, chacun de nous doit se poser la question, est-ce que je sens que j'ai vraiment besoin d'être sauvé? Ou est-ce que je suis quelqu'un, finalement, de pas si mal que ça? C'est ça la question. Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Parce que si nous n'avons pas cette expérimentation du fait c'est quelque chose qui s'expérimente, hein, le fait de voir qu'on peut pas passer à l'autre, qu'on est plein de jugements, qu'on a du mal à se donner, qu'on a du mal à, voilà, que les choses sont lourdes, eh bien, tant qu'on n'a pas ce sentiment que nous devons être sauvés, eh bien, à ce moment-là, eh bien, le Christ n'est pas mort pour nous, il est mort pour rien. Hein, le Christ est mort pour nous sauver. Il a payé très cher notre salut. Alors, c'est vraiment important que nous voyons à quel point, et c'est ça qui va nous rendre libres, c'est de voir à quel point nous avons besoin d'être sauvés, parce que nous attendons tout de notre Sauveur.
Alors, pour resituer encore tout ce mystère de salut apporté, reçu par la personne de Jésus, hein, donc, c'est vraiment en lui que Dieu récapitule tout le salut. Dieu, dès qu'il se révèle, il se révèle comme sauveur à son peuple dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas nouveau que Dieu veuille sauver son peuple. Mais c'est vraiment en Jésus que va se concentrer, voilà, s'accomplir l'œuvre de salut que Dieu a voulu accomplir et offrir à tous les hommes. À tous les hommes, sans exception. Voilà. Et donc, le péché est toujours ce qui vient freiner l'œuvre de salut, de communion entre Dieu et nous, et nous et chacun de nos frères. Et donc, il est essentiel pour nous de comprendre que le péché est toujours une offense faite à Dieu. Même si je blesse quelqu'un, même si je fais un péché de manière invisible aux hommes, je blesserai toujours Dieu, car Dieu est présent dans mon cœur. Et Dieu est toujours blessé par le moindre mal que je puisse faire, d'une manière ou d'une autre. Et cela, il est essentiel de nous le rappeler, non pas pour avoir peur de Dieu, non pas pour craindre Dieu au mauvais sens du terme, mais pour avoir, comme on dit, une sainte horreur toujours plus profonde de tout mal, y compris et à commencer par les plus petits des péchés.
Et même les petits péchés, bien sûr, que nous faisons, bien sûr qu'ils offensent Dieu. Mais par ricochet, ils offensent aussi nos frères. Parce que chaque fois que quelqu'un aime davantage, ce sont tous les frères qui grandissent un petit peu. Et chaque fois que nous refusons d'aimer, eh bien, c'est tout le monde. Nous vivons en communion, il y a une communion entre les personnes. Et c'est important de voir que ce que nous faisons de mal, c'est pas une petite imperfection dans la petite perfection que nous voudrions être, hein, dans la petite pureté que nous voudrions avoir, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental qui touche le cœur de notre vie. C'est-à-dire ce désir d'être indépendant par rapport à Dieu.
Et alors, puisque le péché est toujours une offense à Dieu, Dieu seul peut nous délivrer de ces péchés. Oui. Puisque tout péché, toute action mauvaise blesse forcément et toujours absolument Dieu, alors Dieu seul est celui qui peut nous en délivrer. Et ça, c'est la conséquence logique et qu'il est essentiel de mesurer, et donc du coup la nécessité d'avoir une parole intérieure qui exprime la demande de pardon à Dieu du mal que nous avons fait, c'est un passage indispensable, vous voyez, je ne peux jamais m'extraire de cette nécessité d'une parole intérieure dans un dialogue pour demander à Dieu pardon du mal que j'ai fait, quel qu'il soit, même s'il s'agit d'avoir volé un bonbon, une gomme ou un stylo dans son travail, je ne sais pas, voyez, eh bien, demander à Dieu pardon pour cela. Voilà. Je parle des bonbons parce que c'est pour situer encore une fois la réalité du péché dans les petites choses. Hein. Les structures sociales de péché que Jean-Paul II a nommées ainsi, telles que je viens de le dire, hein, qui sont répandues dans la société. Ah ben non, c'est pas si mal que ça de mentir dans son travail pour obtenir gain de cause dans le travail commercial qu'on est en train d'accomplir et de gagner des parts de marché, etc. Vous voyez, le mal est toujours plus considéré comme un bien par le monde qui vit sans Dieu. Et nous qui cherchons Dieu, eh bien, nous sommes influencés malgré nous par cette manière de penser. Et il nous faut ouvrir les yeux et reconnaître la vérité du mal dont nous sommes capables. Alors, pour parler du nom, hein, on parlait du nom de Jésus qui contient son identité et sa mission, voilà, et qui veut dire « Dieu sauve », ce nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu, le Père, pour le dire autrement, est présent dans la personne de Jésus, son Fils.
Le nom, c'est la personne elle-même. Hein. Voilà. Le nom, c'est pour ça que c'est important la manière dont on nomme un enfant, parce que le nom est la personne.
Et puis Dieu appelle chacun par son nom. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, on espère que ça va bien se passer, puisqu'on a des informations de Zoom qui nous disent qu'on n'a plus que 10 minutes. On va bien voir. Voilà. Donc, le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent dans la personne de Jésus, ce nom qui apporte le salut, qui peut être invoqué par tous, car Jésus s'est uni à tous les hommes par l'incarnation. Hein, vous voyez, tout le monde le sait, mais c'est pas inutile de le rappeler. Le salut n'est possible en définitive que parce que Dieu se fait homme. Vous voyez, c'est ce mystère de l'incarnation, de cette expérience que Dieu a voulu vivre d'être un homme dans la personne de son Fils, Jésus, qui nous permet d'être délivrés dans notre humanité et dans ce qu'on appelle cet admirable échange. Dieu, vous voyez, qui renonce à la gloire de sa divinité pour se faire homme et afin à nous les hommes de recevoir sa divinité. Vous voyez, voilà, c'est ça que la tradition chrétienne appelle l'admirable échange. Voilà.
Alors Dieu, non seulement nous donne son Fils pour nous sauver, mais en nous donnant son Fils pour nous sauver, il nous donne un modèle de ce que nous devons être. Hein? C'est-à-dire que on devrait pouvoir nous appeler des alter Christus. Hein? Chacun de nous devrait pouvoir être appelé un autre Christ.
Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, saint Luc nous rapporte ceci. « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Fin de citation. Et vous avez bien compris, le nom dont parle saint Luc ici, c'est bien celui de Jésus. Vous voyez, Jésus est le nom par lequel, sans lequel aucun homme ne pourrait être sauvé. Quel grand mystère. Alors gardons toujours à l'esprit et dans le cœur, bien sûr, que, et je cite saint Jean au chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Vous voyez, ce mystère de l'amour qui nous sauve, qui nous est donné en Jésus de la part du Père. Voilà. Et qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez, même si chacun a sa mission, il y a une unité dans l'œuvre du Dieu unique en lequel nous croyons. Et c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom qui est au-dessus de tout nom. Hein? Et là ici, je citais dans Philippiens 2, voilà ce que Paul nous rappelle, le nom qui est au-dessus de tout nom et qui est le nom de Seigneur, de Maître, c'est-à-dire de qui désigne aussi le maître et le vainqueur, le guerrier vainqueur des combats. Voyez, le vainqueur des, le seigneur des armées. Et les, pas des armées pour tuer des personnes, mais pour vaincre le mystère du mal en chacun de nous.
Alors je pense qu'on pourrait lire, mais ce serait mieux que tu lises, parce que moi j'ai peur que ma gorge se prenne. Enfin, j'y vais si vous voulez. Alors de l'épître aux Philippiens. Mais il s'est dépouillé, en parlant de Jésus, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Alors le nom de Jésus, eh bien, il est au cœur de la prière chrétienne de tout temps. Juste quelques exemples pour nous le rappeler. Hein, à la fin des prières, on dit toujours par Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, à la fin de ce qu'on appelle les doxologies. Hein, voilà, c'est par le Père, par le Fils et par le et par l'Esprit Saint, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni dans la prière à la Vierge Marie. Voilà, le nom de Jésus est présent aussi dans cette prière du cœur qui est commune à l'Orient et à l'Occident, mais qui a été gardée de manière beaucoup plus fidèle dans l'Orient chrétien. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Voyez, et là ici, on voit bien la centralité de la personne de Jésus et de sa mission de nous offrir le salut. Il est celui à qui nous nous adressons pour parler à Dieu. Il est ce qu'on appelle le médiateur. Voyez, le Père choisit de nous sauver par son Fils, pas autrement. Voyez, le mystère de ces intermédiaires, comme on le dit parfois, même si c'est un peu maladroit, eh bien, est un mystère que Dieu veut. L'autoroute du ciel, elle passe par des médiations. La médiation unique de Jésus et la médiation seconde, voyez, de la Vierge Marie et de tous les saints, ainsi que la prière des anges dont nous avons parlé ce matin pour ceux qui étaient là avec nous. Voyez, donc la mission de Jésus, elle est vraiment centrale dans la vie chrétienne.
Alors, j'aurais juste rajouté une toute petite chose par rapport à la prière du cœur, hein, qu'on peut rendre très simple. Hein. Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur, parce que c'est une prière qu'on peut dire toute la journée, en non-stop, même en faisant des travaux manuels et même quand on fait un travail plus intellectuel ou qu'on voilà, eh bien, c'est important, même ne serait-ce que de dire Jésus, Jésus, hein. Jésus, ça veut dire « Seigneur Jésus, prends pitié de moi qui suis un pécheur ». Et c'est une très bonne prière parce qu'elle nous façonne, dans l'humilité, hein, et elle nous met vraiment de voir que voilà, j'ai besoin de toi Seigneur pour pouvoir vivre comme tu voudrais que je vive.
Alors après avoir traité le nom précisément de Jésus, franchissons un autre pas, tout petit, mais vous voyez bien la densité de tout ce qui est contenu dans ce que nous disons et que nous sommes appelés à vivre lorsque nous prononçons le credo. Donc c'est le mot Christ, Jésus Christ. Alors beaucoup le savent déjà, et pardon pour ceux qui le savent déjà, mais rappelons quand même que le mot Christ vient du grec. Et il a aussi une origine hébraïque, vous voyez, le Messie. Le Christ et le Messie sont deux noms. Le mot Christ vient du grec et le mot Messie vient de l'hébreu. Et la racine commune de ces deux mots, ou de ce même mot en deux langues différentes, c'est celui qui a reçu l'onction, loin, L'OINT. Vous voyez, celui qui a reçu l'onction, voilà. Et donc c'est parce que Jésus accomplit parfaitement sa mission divine qu'il est appelé le Christ, hein, d'une part. Et puis Jésus accomplit l'espérance messianique de tout le peuple, hein, d'Israël, dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. Hein, voilà. Et donc Jésus, il est celui qui reçoit l'onction. Rappelons-le, l'onction, c'est ce frottement de l'huile, l'huile bénie, l'huile sacrée qui était confiée, appliquée sur ceux qui étaient prêtres. Les prêtres dans la première alliance recevaient cette onction, les prophètes et aussi les rois. Mais Jésus concentre en lui-même, et chaque baptisé, après, en lien avec son baptême, dans cette identification à la personne de Jésus, reçoit cette mission à travers l'onction d'être prêtre, prophète et roi, en participation à l'œuvre unique de Dieu en son Fils Jésus. C'est-à-dire que moi, on n'est pas prêtre, prophète et roi que pour soi. Pour le dire autrement, on voit bien que dans la mission que Jésus reçoit, Jésus n'est pas Dieu pour lui-même. Jésus est Dieu pour le salut des hommes, que Dieu a créé gratuitement. Et chacun de nous reçoit le salut personnellement, mais pas seulement pour lui-même, afin d'être comme Jésus et avec Jésus, instrument de ce salut comme prêtre, prophète et roi auprès et pour l'ensemble de l'humanité et plus concrètement et de manière très incarnée auprès de chaque personne que Dieu met sur mon chemin autour de moi, dans ma famille, dans mon travail, auprès de toutes mes relations.
C'est l'onction que nous recevons au baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Alors il faudrait juste expliquer peut-être une chose. Nous sommes prêtres lorsque nous prions et lorsque nous intercédons...
Stop, c'est terminé.
Ah.
Est-ce que s'il y en a qui sont connectés, vous pouvez nous dire que ça fonctionne encore? Cela, on a un message, mettez à niveau vos réunions, consultez la page pour mettre à niveau votre compte vers la version pro et supprimer la durée limite de 40 minutes.
Non, ça j'ai...
Eh oui, toi, il disait 40 minutes, il en fait plus, mais il a comptabilisé même ce que tu avais avant. Et non, toi, nouvelle réunion.
Bah alors, mais nouvelle réunion. Hein? Mais alors, il va falloir tout...
Ouais.
Ah là là, c'est embêtant, ça.
Ouais.
Je vais laisser un peu de chauffage, parce que je fais très chaud. Donc,
pas oui,
chaud.
Moi j'ai chaud aussi, ouais. Et alors après, il faut payer.
Ah, il faut payer.
Ouais. Je pensais pas qu'on allait avoir de problème. Je pense que c'est la première fois que je l'utilise. Donc, Seigneur Jésus. Alors. Participant. Mais comment elle a fait pour déjà être dans la... Tu vois, j'ai pas envoyé de... Ils se reconnectent tous, tu vois.
Ben alors, vas-y.
Mais je sais pas si ça va durer.
On va leur dire qu'on a un problème, qu'on ne connaît pas grand-chose. Qu'on ne connaît pas grand-chose.
Alors, à ceux qui viennent de se reconnecter, on est désolé, mais voilà, il y a eu une coupure qui est liée à une limitation
de temps
de l'utilisation de Zoom. Mais heureusement, visiblement, vous avez pu vous reconnecter sans qu'on envoie de nouvelles invitations. Alors, on s'en réjouit. Évidemment, on espère qu'on va pas avoir d'autres problèmes de coupure. Et on espère surtout que les autres personnes vont pouvoir se connecter aussi. Là, vous êtes trois, là, pour l'instant, à vous être connectés à nouveau, avoir eu le réflexe. Bravo. Est-ce qu'on renvoie des invitations, du coup, pour les autres?
Ouais, je sais pas comment on fait, oui. Je sais pas du tout comment ça marche, ce truc-là, hein.
C'est toujours pareil, on appuie là, on fait participant et puis on envoie les autres visiblement. Voilà. Alors, est-ce que je sais pas, Rosette ou quelqu'un peut nous dire comment vous avez fait pour vous reconnecter?
Catherine, c'est Catherine Luck ou c'est une autre Catherine?
Là. C'est Rosette. On m'a envoyé un chemin HTTP, etc. Vous devez ce matin et du coup je l'ai recopié. C'est-à-dire, j'ai ouvert une autre fenêtre, j'ai copié le même lien que ce matin.
Ah, c'est le même lien que ce matin, d'accord.
Bon, parce que là, ça a coupé, parce qu'on ne peut pas parler trop longtemps, en fait.
D'accord. Bon. Merci pour l'information, Rosette.
Catherine, je ne sais pas quelle Catherine c'est.
Oui. Alors, il y en a une qui s'appelle parmi vous Catherine. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? On se demandait juste quel était votre nom de famille, parce que comme on ne vous voit pas, voilà. Allô, Catherine? Hop. Ou sinon, nous montrer votre visage avec la caméra pendant quelques instants, au choix.
Alors, qui est cette Catherine?
Mets-moi le son, Nini, que je puisse parler.
Comment?
Tu m'entends, mais il ne m'entend pas.
Si, on entend, là.
Ah, pardon, je m'appelle Savi. Je suis une des deux sœurs, Savi.
Ah, d'accord, très bien, bravo. Voilà, pardon, mais comme on voit que les prénoms, on a du mal, pas, et quand on voit pas, comme on vous a demandé de couper les images, voilà, ça nous permet quand même de situer un peu les personnes. Alors, on va essayer de relancer, voilà. Alors, vous pouvez recouper votre micro, Catherine, hein. Voilà. Hop.
Alors, il faut que tu retournes sur, SMS.
Invité. Hop.
Pas Anne, on sait qu'elle ne peut pas. Florent. Oui.
Ça, il y a combien de personnes là-dedans? Excusez-nous, hein, quelques instants, je l'envoie ça.
Oui, on voit. On va tous
si vous recevez encore.
Deux fois, c'est pas très grave.
Si vous recevez d'autres liens, excusez-nous. On essaie de réactiver les choses. Voilà.
Et il faudrait aller sur un autre truc. Attends, là, il y avait. Ça, tu l'as fait.
Ça vient de le faire, ça?
Ben oui. Dolores Vincent Larsu. Normalement, ça s'envoie toute la ligne. Par Françoise Muller.
Non, ça, c'était il y a 43 minutes. Donc, je peux le faire aussi. Voilà. Hop, 5, 4 minutes. Hop, coller.
Non, ça c'est le cas, mais non, c'est bon.
On va le faire, ça coûte pas grand chose. Il refait tous ceux que j'ai fait, c'est pas compliqué, hein.
Oui. Bon, enfin, c'est pas facile, hein, quand même, ce truc-là. Enfin, il faut s'y connaître.
Hop.
Fait toute la liste de Jean-Michel aussi.
Voilà.
Tu crois que ça suffisait pas d'envoyer, de cliquer une seule fois puis d'envoyer tous les le nom là?
Je n'en sais. Hop. Voilà. On a renvoyé à peu près à tous ceux que qui étaient. Voilà. Il ne l'a pas fait, ça? Oui, il était déjà là-dedans. Oui, j'en avais encore un. Voilà. Alors, voilà. Même si tout le monde n'est pas revenu, on est désolé, mais on va devoir quand même, voilà, ne pas vous faire attendre tous ceux qui sont là. Et donc, nous allons reprendre et poursuivre le cours de notre enseignement. Alors, nous étions arrêtés, voilà. On parlait du Messie et de ce sens de la mission du Messie et le lien entre la mission de Jésus et la nôtre. Alors, Saint Luc, au chapitre 2, donne à entendre ceci. « Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. » C'est bien pour manifester que les auteurs des évangiles, hein, les auteurs des évangiles ont bien compris qui était Jésus et la mission précise qui lui a été confiée par son Père, en l'appelant ainsi le Christ, celui qui naît sur cette terre, il est Christ et Seigneur, voyez.
Et puis il avait promis à David que... Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je sais pas.
Il avait été promis à David que de sa descendance naîtrait un sauveur. Mmh. Hein? Donc quand il dit dans la ville de David, c'est la maison de David, hein, et ça montre combien en Jésus s'accomplit la promesse de Dieu.
Alors, la consécration de Jésus comme Messie, comme Christ, avec cette onction qu'il a reçue, elle est manifestée à la fois par le fait que Jésus est ce Fils qui descend du ciel sur la terre, tel que ça nous est rapporté par Jean, au chapitre 3, « Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et c'est manifesté également par sa mission rédemptrice, sa mission de rachat, hein, comme serviteur souffrant. Et là, nous avons la référence de Matthieu, chapitre 20, je le cite, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Fin de citation, Matthieu, chapitre 20. Et donc, vous voyez, cette mission de Jésus, cette royauté de Jésus, en particulier, se manifeste sur la croix. Voilà, nous le savons, la dimension bouleversante et évidemment difficile à vivre chaque jour. Et qui que nous soyons, même moi qui suis prêtre, c'est pas parce que j'ai fait plus d'études que certains que c'est plus facile pour moi de vivre cette réalité-là. C'est tous les jours que nous avons à accueillir, à faire mémoire du fait que le salut nous est donné par Jésus sur la croix et pas ailleurs. D'abord, et parce que la résurrection n'est pas possible sans la croix. Et il en est de même pour chacun de nous. Voilà, donc cette manifestation de Jésus comme Christ, comme celui qui a reçu l'onction, est vraiment visible à découvrir et à vivre aussi sur la croix. Et c'est seulement après la résurrection, évidemment, que cette royauté messianique, cette dimension de Jésus comme vraiment celui qui est choisi par Dieu pour offrir le salut à tous les hommes, va pouvoir être proclamée. Et ça, on le voit notamment dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, je le cite, « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. » Hein? Donc là, c'est un apôtre qui parle et qui s'adresse aux contemporains de son temps, et il est en train d'évangéliser. Et pour évangéliser, il passe pas par quatre chemins, il marche pas ses mots. C'est que vous entendez combien il annonce à ceux qui ne connaissent pas Jésus, voilà, vous êtes ceux qui avez crucifié Jésus, et celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il en a fait l'instrument de salut pour vous-même. Vous qui êtes à l'origine de la crucifixion de Jésus, Dieu vient vous sauver, vous délivrer du mal que vous avez fait, voyez, au cœur même des actions mauvaises qui ont blessé le cœur de Jésus sur la croix.
Oui, c'est tout à fait impressionnant, je trouve, de voir la vérité avec laquelle ce texte, hein, parce que vous l'avez crucifié. Aujourd'hui, on n'ose pas dire à quelqu'un qu'il a fait un péché. Hein. Les prêtres n'osent pas dire à quelqu'un qu'il a fait un péché ou qu'il a, hein, parce qu'ils ont peur de blesser sous prétexte d'une fausse charité. On n'est plus dans la vérité. Et moi, je suis très touchée, là, je vous le dis, ça sort comme ça, par cette vérité que je crois que c'est Saint-Pierre, hein, qui disait ça au début des Actes des Apôtres. Et cette vérité qu'il a de dire les choses et pour apporter une bonne nouvelle, pour dire vous avez fait cela, mais vous êtes sauvés, mais vous êtes aimés. C'est parce que vous avez fait cette bêtise, c'est plus qu'une bêtise, hein, ce péché énorme là que vous êtes, mais que le Seigneur vous pardonne et vous sauve. C'est pour votre salut que je vous dis ces choses là. Parce que si le péché n'est pas dénoncé, eh bien on meurt dans son péché. Il faut que le péché soit éclairé pour qu'on puisse être sauvé. Et les personnes disent tout le monde, oh, il est beau, il est gentil, il est mignon. Et après ça, personne ne se convertit jamais. Il y a que dans la vérité que nous pouvons nous convertir. Hein, et ça, c'est la charité, et parfois elle est mal comprise. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de charité sans vérité, et nous avons besoin de nous connaître pour pouvoir demander au Seigneur de nous sauver.
Et aider son prochain à connaître son péché, c'est pas la mission que des prêtres dans leur ministère, comme votre serviteur, mais c'est la mission de chacun d'entre vous, puisque par votre baptême, vous êtes devenu prêtre. Et donc cette mission aussi d'aider, sans les accuser non plus. Et là aussi, on se situe dans un fil extrêmement étroit, hein, sur une crête, où on risque de tomber d'un côté ou de l'autre, d'excès. Eh bien, c'est la mission de tout baptiser, d'aider son prochain à découvrir son propre péché, afin qu'il en soit délivré. De la même manière que nous devons apprendre aussi, et on ne doit pas seulement aider les autres, mais on doit aussi accueillir, et c'est sans doute une des choses aussi qui n'est pas moins facile, accueillir avec bienveillance ce que telle ou telle personne vient me dire lorsqu'il me dit « Ah, mais est-ce que tu es sûr que là, tu as bien fait? Est-ce que tu crois pas que tu aurais pu faire un petit peu mieux? Ou que là, t'as peut-être ce que tu as fait, est-ce que tu crois pas que c'était un petit peu maladroit ou faux ou mauvais ?» Vous voyez, on sait très bien comment il est difficile, humainement, d'accueillir des reproches, vous voyez. Et donc, on voit bien que ce chemin-là, c'est pas parce qu'il est difficile qu'il faille y renoncer. Il nous faut chercher et prier Dieu de nous aider à être les instruments du salut de Dieu, les uns pour les autres. Dieu ne me sauvera pas sans vous, voilà, qui êtes en train d'écouter, ou sans Marie-Christine, voyez. Dieu ne peut pas me sauver, il a besoin des bouches de mes frères afin de venir me corriger moi-même. Et de même pour chacun de vous, voyez. Et donc, il est essentiel ici de demander à Dieu de faire grandir en nous aussi ce chemin d'humilité qui va nous donner la capacité de chercher dans ce qu'on me dit et qui est désagréable, quand on me fait un reproche, une remarque, voyez, qu'est-ce qui est vrai dans ce que je reçois et qui est désagréable. Le mouvement, quand on nous fait un reproche ou une remarque, c'est de nous justifier, c'est de nier, pour ne pas le dire autrement, de nier le caractère mauvais de nos actions ou de nos paroles.
Et bien souvent, en chargeant les autres.
Et ce mouvement immédiat, eh bien, nous devons en être conscients et mesurer qu'il il manifeste le fait que nous sommes touchés. Et si je suis touché, c'est bien quelque chose sans doute de vrai, au moins pour une part. Voyez, donc à chaque fois que je suis blessé, c'est pas seulement parce qu'on m'accuse de manière fausse, mais parce qu'il y a sans doute aussi quelque chose qui vient révéler quelque chose qui en moi a besoin d'être converti, d'être changé, d'être ajusté au cœur de Dieu.
Et que je n'ai pas trop envie de voir.
Et je n'ai pas trop envie de voir.
Voilà. Alors j'aime pas qu'on le mette. Bon, juste entre. Il est important de dire la vérité à ses frères, et c'est plus facile de le dire à quelqu'un qu'on aime bien. Parce que c'est plus difficile, mais on sait qu'il y a une amitié, un amour qui fait que c'est possible. Mais il faut pas pour autant se transformer en justicier, hein, et aller dire à chacun, toi, si, toi, si, hein, non, hein. Là, ça recommence. Pardon.
Alors. Vous voyez, ensuite, on va avancer un peu quand même, parce que cet enseignement doit être un peu plus court que les précédents. Donc, on va voir dans la suite de ce qui est décrit dans le credo, c'est Jésus, Fils unique de Dieu. Alors, ça, on va le découvrir aussi à travers et grâce à la parole de Dieu. Là, ici, il s'agit de Matthieu, chapitre 16. Et je te cite. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, même si on ne dit pas le Fils unique, c'est quand même signifié de manière implicite par le choix du pronom personnel « le ». Voilà, tu es le Christ, tu n'es pas un Christ, tu es le Christ. Sous-entendu, il n'y en a qu'un seul, voyez.
Et
tu es le Fils du Dieu vivant. C'est bien ici, implicitement, de manière absolument logique, une parole de Pierre qui manifeste que Dieu n'a pas d'autre fils que ce fils qu'il a révélé et qui vient révéler son Père, voyez. Voilà. Et donc, cette réalité du fait que Dieu a un fils et qu'il n'a qu'un seul fils, voyez, c'est une révélation. Jésus va le dire à Pierre lorsqu'il va l'avoir dit, tel que nous venons de l'entendre par la bouche de Matthieu. Eh bien, c'est une révélation de Dieu. Hein, tu n'aurais pas pu dire cela si tu ne l'avais reçu d'en haut, dit Jésus. Hein. Donc, il nous faut que Dieu vienne nous visiter et nous révéler au fond de notre cœur cette vérité pour que nous puissions y adhérer et la proclamer. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer, il nous faut adhérer à ce que nous proclamons lorsque nous disons le credo. Vous voyez,
et en vivre.
Voilà, et en, voilà, adhérer pour en vivre. Voilà. Et dans un autre évangile, celui de Jean, au chapitre 20, je le cite, « Mon Père est votre Père, dit Jésus. » Et donc là, ici, on voit bien qu'il y a une distinction qui est faite par Jésus. Vous voyez, c'est le même Père. Mais si Jésus choisit de distinguer lorsqu'il parle de notre Père en disant « mon Père et votre Père », c'est pour manifester quand même, même s'il y a quelque chose de commun, il y a aussi quelque chose qui y a une distinction entre Jésus et nous. Pour le dire autrement, la filiation que Jésus a, elle est surnaturelle, mais elle est naturelle pour lui dans la communion des personnes divines. Voyez, elle est divine et nous, notre adoption, notre participation et notre filiation à nous, elle est adoptive. Voilà. Et donc au baptême, hein, que nous avons reçu ou que nous recevrons pour certains d'entre vous.
Mais là, il s'agit du baptême de Jésus et de sa transfiguration.
Voilà. Pardon. Voilà. Mais ça va être vrai aussi pour nous pour une part. Mais revenons en effet. Merci à Jésus. Au baptême de Jésus et à sa transfiguration sur le mont Tabor, eh bien, nous entendons la voix du Père qui désigne Jésus et qui dit quoi? Je vais le reprendre par exemple en Marc, mais on le trouve chez d'autres évangélistes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et ici, on voit bien encore que la manière dont Dieu le Père s'exprime manifeste qu'il a un fils et un fils unique. Mon fils, pas un de mes fils. Le Père ne dit pas celui-ci est un de mes fils. Non, il a dit mon fils, qui désigne encore une fois qu'il est unique. Voilà. Et cette unicité du Fils est liée à l'unicité de Dieu. Là, pourquoi nous nommons cela dans le credo? C'est parce qu'encore une fois, nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Voyez, le mystère de la Trinité, de la communion des personnes divines. Voilà, ne change pas la vérité essentielle de notre foi, qui est que nous sommes sauvés par un seul Dieu. Un seul Dieu nous crée et un seul Dieu nous sauve. Et donc, il n'y a qu'un seul Fils qui manifeste cette unicité de Dieu. Pour terminer, nous allons parler du Seigneur.
Non, on pourrait peut-être terminer. Non, la seule chose que j'aurais aimé dire, c'est que quand on dit que nous sommes fils de Dieu, le Fils vit, enfin, il est de la même nature que le Père. Donc nous, pour devenir vraiment enfants, fils de Dieu, eh bien, nous avons à vivre avec la même charité avec laquelle Dieu vit. Vous voyez, nous devons lui être conformes. Et c'est tout un chemin. Ce ne sera accompli que lorsque nous aurons fait notre grand passage. Mais c'est important que nous ayons ça en ligne de mire, que nous disions, mais voilà, je suis appelée à reproduire dans ma vie ce que le Christ a vécu, ce que le Christ a fait, ce qu'il a aimé. Hein, comment il s'est fait proche de chacun, des plus petits, des pauvres, des pécheurs. Hein, et donc c'est vraiment pour nous un appel très très profond à la conversion que de voir cela.
Et donc pour terminer, Seigneur, on en a parlé un tout petit peu mais on va le creuser maintenant. Donc le nom de Dieu tel qu'il se révèle dans la première alliance, hein, et ses initiales auxquelles on rajoute des voyelles pour dire ce nom imprononçable selon le peuple juif, qu'on appelle Yahvé, hein, et que dans la liturgie on ne retrouve jamais, par délicatesse vis-à-vis de nos frères juifs, et qu'on change toujours par le nom de Seigneur ou de Dieu, mais souvent par Seigneur. Et donc ce nom de Dieu, Yahvé, il est rendu en grec par Seigneur, ou on traduit aussi en grec par Kyrios.
Kyrios.
Oui, mais Kyrios aussi, on prononce aussi avec un U, peu importe. Et donc ce titre-là, il est donné aussi à Jésus. Vous voyez, le nom de Seigneur qui était donné à Dieu, au Dieu unique, qui n'était pas encore forcément compris comme étant le Père dans la première alliance, il est donné aussi à Jésus, le titre de Seigneur. Hein. Et on le dit en particulier dans cette prière au début de la messe, lorsque à la fin du rituel de pénitentiel, eh bien nous chantons, nous disons Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Voilà. Mais ce mot Seigneur qu'il a ici, dans le rite pénitentiel, comme dans l'essentiel de la messe, est attribué à Dieu le Père, il est aussi donné à Jésus, puisqu'il participe d'une nature commune entre le Père et le Fils. Nous y reviendrons sans nous étendre davantage sur la question maintenant, mais c'est important de le dire déjà, pour une part, le mot de Seigneur, ce mot qui manifeste cette seigneurie, c'est-à-dire cette puissance, hein, pour revenir à quelque chose que nous avons déjà vu, hein, le Seigneur, le terme Seigneur est très souvent aussi utilisé dans la première alliance comme étant, pour désigner Dieu, le Seigneur des armées. Des armées, non pas des armées, mais des armées. Voilà, le Seigneur des armées du ciel. Voilà, que sont les saints, les anges, les armées de Dieu. Voilà, qui sont au service de l'homme pour lutter contre le mal. Non pas, encore une fois, pour lutter contre des personnes, mais pour lutter contre le mal. Dieu est celui qui combat avec nous, pour nous, le mal. Il est ce maître et ce seigneur, hein, qui a cette maîtrise, cette capacité que nous n'avons pas par nous-mêmes d'être victorieux du mal. Hein. Il y a ici un enseignement essentiel, et qui est celui-ci, en effet. Je ne peux jamais lutter durablement contre le mal par mes seules forces. Et donc l'erreur, pour ne pas dire le mensonge même, en tout cas qui est insinué par Satan, voilà, consiste à croire que nous aurions un tant soit peu une capacité par nous-mêmes à éviter le mal, à lutter contre le mal et contre les tentations que nous connaissons chaque jour. Et ça, il nous faut absolument renoncer à cela. Il y a une conversion de l'intelligence et du cœur qui est indispensable pour que nous puissions vivre toujours plus dans cette heureuse dépendance vis-à-vis de Dieu qui seul est maître du mal et qui est seigneur du ciel et de la terre.
Et nous voyons comment il a cloué le mal sur la croix en se laissant lui-même crucifié. C'est-à-dire que c'est vraiment pas par les moyens que nous aurions, nous, employés, hein, mais le Seigneur a vaincu le mal en se laissant lui-même crucifié sur la croix.
Et Jésus, dans sa seigneurie, elle est reconnue d'une manière éclatante dans les évangiles par la figure, par la personne de Thomas, qui, juste après la résurrection, et après avoir réclamé de voir Jésus qu'il n'avait pas vu lors de son apparition avec les autres disciples, voilà, va voir les plaies de Jésus, qui lui invite à mettre son doigt et sa main dans ses plaies diverses, et Thomas qui va s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu !» Voyez. Et donc là, on va avoir dans cette exclamation de Thomas l'unique définition et affirmation du fait que Jésus soit et Seigneur et en même temps une personne divine. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Voilà. Et donc, il est heureux que nous puissions, eh bien, prononcer nous-mêmes, vous voyez, cette affirmation dans notre prière, voyez, dans la pauvreté de nos vies et dans les combats que nous menons, voilà, de manifester un acte de foi, de confiance, voyez, et d'espérance dans le fait d'être visité et consolé et fortifié par Dieu à travers son Fils et en prononçant cette affirmation, voyez, mon Seigneur et mon Dieu. Puis après, chacun rajoute, au fond de son cœur. Voilà ce qu'il veut exprimer de manière plus personnelle dans le combat qu'il est en train de vivre. Voilà.
Et alors, je pensais à cette phrase à la croix du Seigneur. Du coup, j'ai pas très bien écouté, donc je suis peut-être un peu à côté de la plaque. Mais c'est après la mort, tout de suite après la mort de Jésus, le centurion qui dit « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Hein, c'est quand même impressionnant de voir que nous qui aimerions que toutes les choses se passent toujours bien, c'est Jésus crucifié, et bien le centurion reconnaît, parce que il s'est laissé crucifier sur la croix, qu'il est le Fils de Dieu.
Et pour terminer, voyez, on a aussi saint Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, l'affirmation suivante, je le cite, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. Voyez. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint, s'il n'est en communion, pour le dire autrement, voyez, avec l'Esprit Saint. Et donc du coup, il est heureux que dans nos prières, eh bien, nous puissions chercher à affirmer cette seigneurie de Jésus sur nos vies et dans nos cœurs, voyez, en mendiant à l'Esprit Saint de venir nous visiter et de nous donner, de prononcer cette affirmation dans la confiance. Hein. Voilà, donc la prière chrétienne, elle est marquée profondément par ce nom de Seigneur. Et il est heureux qu'à chaque fois que nous le prononcions, nous puissions mesurer intérieurement tout ce que cela représente, voyez, comme affirmation de qui est Dieu et de ce qu'il veut vivre pour nous, nous offrir comme œuvre de salut pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce deuxième enseignement.